Bonjour.
Bonjour John.
Comment vous allez?
I'm good. Très bien.
Ça va bien. Bon, bienvenue en France de nouveau. Pourquoi vous êtes en France actuellement?
Je viens assez souvent en France. Je crois que vous venez de me présenter comme ancien propriétaire de l'OL, c'est ça?
Oui. Vous êtes toujours le président de l'Olympique Lyonnais. Alors, vous considérez toujours comme le patron de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui?
Je ne suis pas le président, mais je suis toujours le propriétaire. Évidemment, je n'ai pas besoin de venir aussi souvent en France qu'avant pour le travail. Je viens pour le plaisir, j'adore la France, ma mère est française, j'ai pas mal d'amis ici. J'aime toujours l'équipe et la communauté lyonnaise. J'aime rester connecté avec la France.
C'est intéressant de faire cette précision tout de suite, John Textor, parce que effectivement, il y a eu du changement à Lyon à la fin du mois de juin pour le passage devant la DNCG. Michel Kang a été nommé donc patronne de l'Olympique Lyonnais. Vous nous précisez aujourd'hui que vous êtes toujours le propriétaire via la holding Eagle Football. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Yeah, so Eagle Football. I think is a 93 or 94%.
Oui, Eagle Football est actionnaire de l'OL à hauteur de 93 ou 94%, l'actionnaire majoritaire. Je dirais qu'à peu près 30 jours avant l'audition devant la DNCG, je savais que j'avais des problèmes avec la gouvernance du football français. J'ai pris le thé avec Michel Kang un soir à Paris. Je lui ai demandé de réfléchir à l'idée d'être coprésidente ici, au moins à cause de ses problèmes. Nous savions que politiquement, avec la gouvernance, ma nature amusante et disruptive n'était pas bonne pour ma relation avec la DNCG. Et je lui ai demandé de réfléchir à prendre ce poste. Avec la relégation, c'est devenu nécessaire. La seule façon de passer l'appel, c'était de changer de dirigeant.
Donc, si je comprends bien, le fait d'avoir mis Michel Kang à la tête de l'Olympique Lyonnais, c'était une question de personne pour vous, et vous estimez que vous pouvez encore prendre des décisions aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais. Vous n'êtes pas écarté de la direction sportive et des choix stratégiques qui concernent l'OL.
Well, Michel is the president of Lyon.
Michel est la présidente de l'OL, elle rend des comptes au conseil d'administration de l'OL et le conseil d'administration rend des comptes à l'actionnaire. Je n'ai pas à m'impliquer au quotidien, mais si une décision doit être prise et dépasse ce cadre, c'est là que l'actionnaire intervient.
John, à vous entendre, la DNCG en fait a fait un délit de sale gueule avec vous, parce que moi j'écoute tout ce que vous dites, vous aviez envie de renforcer l'équipe, d'avoir des meilleurs joueurs encore pour avoir des ambitions, mais aujourd'hui il y a des décisions qui sont tombées, donc vous nous expliquez que c'est pas des décisions financières mais plus des décisions d'hommes avec vous. Est-ce que y a vraiment, c'est le ressenti que vous avez?
Non, je ne pense pas que ce soit une question de personne. Je ne sais pas ce qui est dit dans la presse, mais une réputation, c'est ce que les gens pensent de vous. La personne, c'est qui vous êtes réellement. Et je ne pense pas que ma personne soit le problème, juste parce qu'un journaliste sportif ne comprend pas les pages financières d'un journal. Je pense que le problème principal que j'ai eu avec la DNCG, je n'ai pas commis une erreur en achetant Lyon. J'aime le club, j'aime la communauté. Je pense que j'ai fait une erreur en achetant quelque chose à Jean-Michel Aulas. Il ne voulait pas vendre, il y a été contraint. Le club n'était plus solvable, et si vous regardez l'argent reçu de CVC, ils étaient en perte de 139 millions d'euros à la fin de 2023, avec une balance défavorable de 44 millions sur les transferts. Mais quand vous achetez une entreprise à un homme qui ne veut pas vendre, qui a été forcé de vendre par ses actionnaires majoritaires, il prend l'argent à contre-cœur. Il vous donne le contrôle, mais ensuite, il va sur un plateau de télévision un mois plus tard et dit qu'il n'a pas l'intention de vous écouter. Et finalement, il vous met dans une position où vous devez le remplacer. Après, vous devez faire l'impensable. J'ai été choisi parmi un groupe d'acheteurs potentiels parce que les vendeurs pensaient que j'étais le plus susceptible de bien m'entendre avec Jean-Michel. Mais derrière, il annonce ouvertement qu'il ne fera pas de changement si on le demande. Donc j'ai dû le licencier, ce qui est horrible. Et je dirais que depuis ce moment-là, chaque semaine, il agit très durement contre nous. Il est dans une situation étrange, il aime le club, mais il agit contre son propriétaire. Depuis 2 ou 3 ans, il n'y a pas une semaine sans que j'aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel. Je n'aurais rien dû lui acheter. J'ai été contraint de prendre la direction de ce club, de régler la situation. Et depuis le 30 juin 2025, tous les changements que vous voyez, la réduction de la masse salariale, la réduction des dépenses, rendre le club viable financièrement, tout ça a été fait. Le club était insolvable. Après 36 ans de sa présidence, le club ne tenait plus sur ses deux jambes. Nous l'avons ramené à l'équilibre le 30 juin, nous l'avons ramené en Ligue Europa, ce qui n'était plus arrivé depuis un moment.
C'est l'événement dans Rotten sans flamme, John Textor est notre invité pour sa version des faits. On est en train de parler de Jean-Michel Aulas, à qui vous avez racheté l'Olympique Lyonnais, à contre-cœur, c'est ce que vous venez de nous dire. Il n'avait pas envie de vous vendre le club. En quelque sorte, il vous a posé des problèmes durant toutes ces étapes. Mais j'ai l'impression que vous pouvez aller plus loin. Et pour vous, Jean-Michel Aulas, à travers ses différents contacts à la Fédération et peut-être même à la DNCG, vous a mis des bâtons dans les roues pour appliquer votre projet, votre stratégie financière pour l'Olympique Lyonnais?
Concernant Jean-Michel, les gens oublient certains de ces moments avec le temps. Ils retiennent les moments douloureux, le fait que nous ayons été relégués administrativement, mais ils oublient tous les détails. Ils oublient que Jean-Michel nous a pris à partie sur Twitter et le lendemain, il a dit qu'il a été piraté. Ils oublient la semaine où il a gelé les 14 comptes de notre opération, 42 millions parce qu'il avait porté plainte contre nous. Il prétendait qu'on lui devait de l'argent, donc nos comptes ont été gelés. Mon premier marché des transferts, c'était en 2023. Nous étions arrivés au club en décembre 2022. Nous avons injecté 86 millions d'euros, la somme nécessaire selon lui. Nous avons rajouté 21 millions parce que la DNCG l'exigeait. Nous avons remboursé 50 millions d'euros de dettes. Toutes les banques retiraient leurs prêts. C'est la définition d'insolvable quand la banque vient récupérer l'argent prêté. Nous avons refinancé toutes les banques. Nous avons mis plus d'argent grâce à Eagle et Michel Kang en achetant plus de parts. Avec cette épée de Damoclès de la DNCG qui menaçait le club, nous avons aidé financièrement. Et durant mon premier mercato, on me dit que je ne peux pas acheter de joueurs. C'était un mois après avoir viré Jean-Michel. L'OL n'avait jamais eu d'interdiction de recrutement dans son histoire. Et l'année où nous arrivons, en injectant autant d'argent, j'avais une équipe bâtie pour la relégation.
Donc il y avait plus d'exigences de la part de la DNCG parce que ce n'était plus Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais.
Je pense que Jean-Michel Aulas pouvait arriver avec une prévision dans laquelle il disait qu'il vendrait Toko Ekambi 20 millions d'euros et il le croyait, alors que tout le monde savait qu'il n'en obtiendrait jamais plus de 5 millions. Et je suis persuadé que ces prévisions ne lui ont jamais posé de problème devant la DNCG. Mais dans mon cas, le tout début de mon expérience à Lyon a été sous interdiction de recrutement. Oui, je suis très énervé. Notre jeu était faussé dès le départ. 7 points en 14 journées, personne n'avait jamais échappé à la relégation avec un tel bilan. J'ai ensuite eu un mercato le suivant où la multipropriété a aidé et nous sommes devenus la meilleure équipe de France sur la deuxième partie de saison. Si nous avions eu la liberté de gérer notre club avec un business model viable, sans supervision ni interférence, nous serions actuellement en Ligue des Champions.
John Textor, invité de Rotten sans flamme sur RMC, c'est l'événement. John, vous vous en doutez, vous devez le ressentir à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qui se passe à Lyon. Il y a une forme de rejet désormais des supporters envers vous. On vous en veut beaucoup. On a cru que avec vos actions financières, vous alliez faire disparaître une place forte du football français, l'Olympique Lyonnais, un grand club et qui a marqué l'histoire du football français. Est-ce que vous comprenez la colère des supporters, des salariés également de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que vous voulez leur faire passer un message aujourd'hui dans Rotten sans flamme?
Vous ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous quand vous êtes dans ce milieu. Il faut travailler, être honnête, aider. Le fait est que nous n'avons fait qu'aider, mais ce n'était pas assez. Nous avons ramené des capitaux pour rembourser des dettes. Il y a des limites à ce qu'on peut faire concernant les profits et les pertes en France. Les pertes continueront pour ce genre de club. Il faut toujours plus de capital, ce que nous n'avons pas réglé. Et en même temps, nous avons ramené des talents, nous avons réduit les dépenses, mais nous avons eu des vents contraires. Nous avons perdu énormément d'argent sur la question des droits télé. Depuis que je suis arrivé, j'ai augmenté les revenus chaque année. Mais les supporters ne le savent pas. Ils ne le savent pas à cause de l'argent amené par CVC en une seule fois lors de la vente des droits télé. Mon erreur sur la question des pertes et des profits débute en 2023. Nous avions 7 points après 14 journées, l'interdiction de recrutement avait été décidée sur des chiffres de l'ancien propriétaire, et j'ai dû composer avec ça. Devrais-je laisser l'équipe être reléguée ou mettre davantage d'argent ? Dans le foot, vous ne pouvez pas simplement vous débarrasser des joueurs, vous ne pouvez pas arrêter de payer les joueurs. Ils ont des contrats, donc il faut des dépenses supplémentaires. Nos salaires ont augmenté à ce moment-là. Non seulement nous avons évité la relégation, mais nous avons atteint la Ligue Europa. On arrive à la saison suivante avec plus de droits télé, de vraies opportunités, mais la Ligue rompt son contrat avec le diffuseur. Nous avons perdu 30 millions de dollars, autant d'argent que celui récupéré avec la diffusion des rencontres européennes. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs contrats s'en vont. Anthony Lopez, Lacazette, que j'adore, Lovren, incluant des bonus pour Tolisso que nous n'avions pas encore. Les réductions de dépenses ont été si importantes au printemps 2024 et 2025. Donc, quand vous arrivez au 30 juin 2025, vous avez une baisse de 40% de la masse salariale, une réduction importante grâce au travail accompli. Nous avons présenté à la DNCG en mai et en juin un projet viable. Les supporters ne le savent pas. Tout ce qu'ils voient, c'est la relégation administrative. Évidemment qu'ils sont en colère. Ce que j'ai dit, c'est que nous avions assez d'argent pour soutenir ce modèle, et c'est le cas. Si vous regardez les documents présentés à la DNCG, que je serais ravi de vous montrer, non seulement le modèle était viable, mais il y avait en plus l'argent de Crystal Palace avec un acheteur prêt à nous laisser davantage si nous en avions besoin. Nous avions 70 millions d'euros supplémentaires venant de la société Hutton Capital dans le cadre de transferts de joueurs. Nous avions 25 millions d'euros de plus de la part d'Ares, encore 30 millions d'argent de Michel Kang. Tout cet argent présenté comme de possibles options pour combler un éventuel déficit. Le 20 mai, la DNCG nous donne son total feu vert en disant « John, tout va bien ». Les supporters peuvent m'en vouloir de ne pas avoir été bon un mois plus tard, mais il faut regarder ce qu'il s'est passé entre le 20 mai et le 24 juin. Le 20 mai, nous avons le feu vert. Nous n'avons fait qu'augmenter tous nos chiffres le mois suivant. Nous avons rajouté 25 millions de cash supplémentaires. Nous avons vendu Ryan Cherki pour 30 millions, et nous arrivons le 24 juin avec des chiffres encore meilleurs que le mois précédent. Il faut demander à la DNCG comment nous pouvons avoir le feu vert le 20 mai, et nous sommes relégués le 24 juin.
La différence exacte, prenons l'exemple d'un club comme l'Olympique de Marseille et de son propriétaire américain comme vous, Frank McCourt, c'est de l'argent personnel qui est investi.
Tous les ans,
il y a
tous
une
les ans,
pour la DNCG.
Congratulations.
Mais félicitations à lui, il est plus riche que moi.
On n'est pas sur de la spéculation financière, on est sur du concret, des preuves, de l'argent propre apporté directement pour permettre le train de vie de
Sir,
son club.
With all due respect, you're changing the rules. You don't know the rules.
Avec tout le respect, vous ne connaissez pas les règles, vous n'avez jamais été auditionné par la DNCG. Pendant des années, la DNCG a accepté des promesses de présidents français. Elle a accepté des contrats d'autres personnes. Nous, on nous dit, on ne croit à rien tant que ce n'est pas à l'écrit. Nous leur avons envoyé des lettres d'engagement d'institutions financières crédibles, des gens crédibles, et nous avons un contrat pour vendre Crystal Palace, ce qui ramène 200 millions d'euros. Et nous avons une lettre de l'acheteur qui dit que nous ferons tout ce dont vous avez besoin. Mais le fait est que nous n'en avons même pas besoin. Si vous regardez les courbes de l'argent disponible, je vais publier les données sur mon site ces prochains jours, nous n'avons jamais approché le zéro. Et tout ça, sans droit télé, sans pouvoir tabler sur des ventes de joueurs, ce qui est d'ailleurs ridicule.
If you want to publish all over the place that he's richer than me, that's fine.
Si vous voulez dire partout que Frank McCourt est plus riche que moi, pas de souci. Mais est-ce le seul modèle qui fonctionne dans le football français? Un seul homme qui signe un chèque? Ce n'est pas notre modèle, je n'ai jamais fait cette promesse. Je sais que vous êtes ici pour me poser des questions, mais comment peut-on avoir le feu vert? Le 20 mai, la DNCG me dit être agréablement surprise par mes chiffres. Les chiffres ne font que s'améliorer jusqu'au 24 juin, mais le 24 juin, vous êtes relégué.
Mais
je vous pose la question. Comment est-ce possible? Et si cela arrive, les supporters lyonnais doivent être prévenus. Vous n'aimez peut-être pas John Textor parce qu'il porte le masque de cow-boy. Tout le monde a trouvé ça drôle, pas eux. Un Américain débarque, veut changer les règles des droits télé, la gouvernance.
Mais John, pourquoi vous
n'aimez peut-être pas John Textor, mais les supporters lyonnais méritent davantage qu'une relégation surprise.
John, pourquoi vous avez mis 6 mois donc pour expliquer cette version des faits déjà? Et puis l'autre question que j'ai, parce que vous êtes venu, c'est la deuxième fois que vous venez dans l'Antenne sans flamme. C'est la deuxième fois que vous venez dans mon émission, et 6 mois avant, donc vous partiez de Lyon, vous nous avez dit ici même que l'objectif de Lyon, c'était de faire la Ligue des Champions. C'est pour ça que vous changiez Pierre Sage par Fonseca, et que c'était primordial pour le club et aussi financièrement de faire la Ligue des Champions fin d'année. Ça allait rassurer tout le monde. Donc déjà, on savait que au mois de janvier, donc 6 mois avant votre départ l'année dernière, que c'était compliqué. Et là aujourd'hui, vous nous dites que, en fait, financièrement, tout allait bien, que le club était en train de s'enrichir et que tout allait se passer bien. Moi, en fait, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans.
Non, je n'ai jamais dit que le club allait bien. Sans droit télé, aucun club français. L'économie des clubs français est compliquée. Je n'ai jamais dit que le club allait bien. J'ai dit qu'il était insolvable quand j'ai été nommé. J'ai augmenté les revenus chaque année depuis mon arrivée. J'ai même envoyé le message à Michel. Nous avons réduit les dépenses. Elles seraient efficaces à partir du 30 juin, moment où la balance perte-profit serait à l'équilibre. J'ai passé ce message. Et une équipe condamnée à la relégation s'est qualifiée en Ligue Europa. Voilà ce que j'ai dit. Pourquoi je n'avais jamais encore raconté ça? Vous savez, je ne me soucie pas de ma réputation en France. Je m'inquiète pour le club. J'ai lu dans la presse que j'étais parti, qu'il y avait des irrégularités financières. C'est faux. Il n'y a aucune autre version crédible que celle rappelant que nous avons investi et investi dans ce club. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour m'assurer que le club allait bien. Le club a passé la DNCG, ils sont passés d'une interdiction de recrutement à un encadrement de la masse salariale. Est-ce que j'ai trouvé ça mérité? Non. Je pense qu'ils devraient faire confiance à Michel Kang pour gérer ce business beaucoup plus qu'à eux. C'est un panel de 18 volontaires, je ne sais pas d'où ils viennent. Ce sont des auditeurs, des consultants financiers. Elle est une experte, elle sait comment gérer un business. Pourquoi dois-tu lui dire comment dépenser l'argent? Je pense que c'est de la bêtise. Alors pourquoi j'ai attendu? Si je parle, ça va irriter les gens encore plus, ce qui fera du mal au club. Je laisse Michel diriger, mais quand je vois des articles comme j'ai vu la semaine dernière qui parlent de transfert fantôme, je veux parler de sport, vous parlez de mes promesses, j'ai promis qu'on amènerait de l'argent pour ramener le club à l'équilibre et on l'a fait. J'ai promis que mes partenaires allaient soutenir ce club s'ils devaient le faire et ils l'ont fait. Et les chiffres exacts que nous avons présentés depuis le 20 mai et le 24 juin sont similaires aux 100 millions d'euros qui sont arrivés à l'époque de l'appel.
Est-ce que John, je peux juste préciser ce que...
J'essaie de parler de sport et vous m'interrompez.
De quoi on parle lorsqu'on parle de transfert fantôme? On parle juste de transfert donc de 5 joueurs qui étaient à Botafogo, qui ont généré une créance de 120 millions d'euros pour l'Olympique lyonnais, et 4 d'entre eux n'ont jamais joué sous le maillot lyonnais. L'exception, c'est Thiago Almada, les autres n'ont jamais porté le maillot de l'Olympique lyonnais.
First of all, I don't even know what a phantom transfer is.
Tout d'abord, je ne sais même pas ce que c'est un transfert fantôme. Ces joueurs ont été recrutés. Je veux me concentrer sur les 3 principaux. Thiago Almada, quand il a été recruté au sein d'Eagle Football, il avait un accord. Il pouvait jouer pour Botafogo, puis être transféré à Lyon. Que vous aimiez ou pas, la multipropriété permet de recruter ainsi. Si vous n'aimez pas les règles de la multipropriété, changez les règles à la Ligue. Mais c'est tout à fait en accord avec les règles.
Thiago
nous a fait gagner 2 championnats au Brésil. Dans son contrat, il a eu le droit de venir à Lyon. Il n'y avait pas d'interdiction de recrutement ni de sanction. À ce moment-là, en 2024, la saison est terminée et nous avons signé un contrat pour transférer ses droits à Lyon. Il a signé un engagement pour venir à Lyon. Ce n'est pas un transfert fantôme, c'est un transfert de football.
Et les autres ?
Dans le même temps, Igor Jesus a aussi été recruté au sein d'Eagle Football. Nous l'avons recruté gratuitement. Il avait marqué un nombre de buts incroyables aux Émirats Arabes Unis. Peut-être que des gens doutaient de son niveau. Peut-être que des gens s'inquiétaient de ses blessures passées. Nous l'avons fait venir au Brésil. Il est devenu titulaire en sélection. Vous l'avez vu contre le PSG avec Botafogo. Il a signé un accord au printemps 2024 pour venir à la fin de sa saison à l'OL.
Luis Enrique, voted best player in Brazil. Voted best player in South America.
Et Luis Enrique, élu meilleur joueur au Brésil, meilleur joueur en Amérique du Sud, qui a brillé en Copa Libertadores, a signé un accord. L'OL et Botafogo figuraient sur le contrat signé en janvier 2024 et ils pouvaient décider à quel mercato venir à Lyon. Ce sont de vraies transactions de football et des transferts qui ont été signés par les footballeurs avec des accords. Ils attendaient le bon mercato pour venir.
Et pourquoi on ne les a jamais vus sous le maillot lyonnais alors ?
Eh bien, c'est une merveilleuse question pour la DNCG. C'est très important. La seule raison pour laquelle je parle de ça, c'est que je continue d'espérer un changement. Si vous êtes la DNCG avec le pouvoir de nous protéger financièrement, nous protéger de nous-mêmes, s'assurer que nous ne dépensions pas trop d'argent, comment pouvez-vous nous dire qu'on ne peut pas inscrire dans notre effectif trois joueurs qu'on possède déjà ?
Ils
viennent en France au moment où nous étions interdits de recrutement. Nous devons les signer car c'est la fin de leur saison. Si vous regardez Hendrick au Real ou Esteva à Chelsea, si vous ne les transférez pas en Amérique du Sud entre les mercato, vous ne les aurez pas.
If you're not signing them down in South America between the windows, you don't get them.
Donc nous les signons, nous pouvons les payer, nous les possédons déjà. Le prix du transfert va de la poche droite à la poche gauche. Et que disent-ils ? Qu'on ne peut pas les enregistrer dans notre effectif. La DNCG est censée protéger votre argent. Ils ne vont pas vous laisser mettre sur le terrain des joueurs que vous possédez déjà, que vous pouvez clairement payer. Ça crée plus de risques. Que se passe-t-il si vous brisez ce contrat avec un joueur ? Tu es un ancien joueur. Le joueur peut détruire le contrat, tu perds sa valeur. Nous avons dit à la DNCG, vous pensez qu'on pourra avoir un souci sur les transferts, donc sanctionnez-nous d'une interdiction de recrutement sur le prochain mercato. Mais une interdiction rétroactive, on ne peut pas faire jouer ces joueurs. Nous savons pourquoi nous l'avons vu. Quand Caio et d'autres présidents ont posé des réserves à chaque match de Thiago Almada, ils savaient que ces joueurs venaient. Je suis certain que tout le monde savait qu'ils venaient. Imaginez notre effectif s'ils avaient autorisé que des joueurs à déjà achetés, les meilleurs du Brésil, puissent être avec nous en janvier. Vous avez vu le talent de Thiago Almada ? Imaginez-le avec Igor Jesus, Luis Enrique. Nous aurions été en Ligue des Champions.
Mais John Textor, on peut comprendre l'éventuelle jalousie des autres clubs de Ligue 1. Oui. On se rappelle tous des réserves posées par différents clubs lorsque Thiago Almada allait jouer à Reims, peu importe, dans les autres clubs de France. Ce que j'ai du mal à comprendre avec votre discours, c'est que vous nous dites que vous aviez tous les feux au vert le 20 mai. Tout a changé à la fin du mois de juin.
24 juin, oui.
Quel est l'intérêt de la DNCG d'aller mettre en danger un des monuments du foot français, l'un des plus grands clubs de foot en France? Quel est l'objectif de la DNCG? Pourquoi aurait-il envie comme ça de faire couler l'Olympique lyonnais?
Je ne pense pas qu'ils auraient relégué l'OL, je pense qu'ils voulaient un changement de direction. Si vous regardez le budget présenté par Michel à la DNCG le 11 décembre, c'est quasiment le même budget que le mien en 2024, quasiment le même budget dédié au salaire. Les réductions de dépenses étaient déjà en cours. La seule différence concerne les joueurs vendus. Il y a différents amortissements possibles selon le coût du joueur. Quelle différence entre les deux budgets ? Celui qui le présente. Il voulait que la direction change. Le chapeau de cow-boy a fait rire des gens, mais pas eux. Mais n'oubliez pas ça. Si la DNCG voulait protéger financièrement les clubs, comment peut-elle nous mettre en danger en rompant les accords signés avec Thiago, Igor et Luis ? Casser leur contrat nous aurait fait perdre leur valeur marchande. Comment peut-elle interdire de les inscrire dans notre effectif alors qu'ils nous appartiennent ? Ils ne voulaient pas de ces joueurs dans l'effectif. Les autres présidents non plus. La DNCG nous interdit d'avoir des joueurs qui sont déjà à nous. Et pourquoi je parle maintenant? Parce qu'il y a un article qui parle de jeunes hommes qui ont signé un contrat, qui voulaient vraiment venir à Lyon. Et la DNCG a décidé qu'on ne pouvait pas les enregistrer. C'est de la législation du football, mais ça ne protège pas financièrement.
John, à vous entendre, il y a beaucoup de regrets. Donc peut-être que vous avez envie de revenir à la tête de Lyon.
Non.
C'est une question faite pour provoquer. Qui a dit que je voulais revenir?
Non, c'est pas provoque du tout. Mais non, mais je sais pas, au fond de vous, vu que c'est... John, c'est une question légitime parce que à vous entendre depuis le début, moi j'écoute et merci de vous livrer comme ça. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un délit de sale gueule. Donc on voulait vous évincer et mettre une autre tête à la tête de Lyon. Mais au fond de vous, vu que vous avez fait beaucoup de bonnes choses, peut-être que vous avez envie de revenir, c'est tout.
Je ne sais pas ce qui vous a donné cette impression. J'apprécie la question. J'adore le Brésil. 30 jours avant la première audience devant la DNCG, j'ai dit à Michel qu'elle devrait sans doute rejoindre l'aventure. C'est devenu une évidence quand est arrivée la relégation administrative. Vous ne m'aviez pas vu récemment, je ne parle que maintenant, premièrement parce que le club va bien, et deuxièmement parce que ça m'a énervé de lire ces articles sur des transferts fantômes. Les supporters lyonnais peuvent être furieux contre moi, parce que j'étais tellement provocateur, tellement disruptif, j'ai irrité trop de gens dans le football français, ce sont mes erreurs.
That's where my mistakes lie. But don't come to me and tell me that player transfers.
Mais ne me dites pas que les transferts de joueurs n'étaient pas bons pour le club. Ce sont des transferts. Les versements transferts étaient là. Mais au moment où ces joueurs ont été vendus, l'OL a reçu chaque euro associé au fait de posséder ces joueurs. Aujourd'hui, Botafogo a envoyé 146 millions d'euros à l'OL. L'OL en a reversé 40. Il reste 104 millions envoyés par le groupe Eagle pour l'aider, en plus de l'argent versé lors du rachat.
40 million back. There's 104 net cash that was sent from the Eagle Network to help OL.
Nous avons financièrement soutenu l'équipe. Je n'ai aucune intention de revenir faire de la politique dans le football en France. Michel se débrouille mieux et le club est en meilleure forme à cause de cela.
Michel is much better at it and the club is in much better shape as a result of it.
Au-delà de la forme, ce qu'on vous reproche aussi à Lyon, c'est d'avoir détruit en quelques années ce qui avait été construit en plusieurs décennies. Je pense notamment au centre de formation, à tout ce qui a été vendu. Je pense à l'Arena aussi qui a été cédé. C'était pourtant un fonds comme ça.
À Jean-Michel Aulas.
À Jean-Michel Aulas d'ailleurs, un fonds immobilier qui aurait pu rapporter de l'argent à Lyon.
Let's do it one by one.
La section féminine aussi.
No offense, but this is a bit like a tabloid show.
Sans vouloir vous vexer, on se croirait dans l'émission d'un tabloïd. Vous ne faites que répéter des rumeurs. Posez-moi une question précise. Je ne lis pas la presse ici.
Mais c'est notre rôle de vous mettre devant vos contradictions. C'est votre discours.
Posez-moi une question précise. Vous ne faites pas votre travail. Vous relayez des rumeurs. Dites-moi ce que j'aurais mal fait.
Est-ce que l'Arena a été vendue? Pourquoi avoir vendu l'Arena lorsque vous étiez propriétaire de l'Olympique Lyonnais, par exemple?
First of all, it was already sold. It was not on the balance sheet.
Elle était déjà vendue. Ce n'était pas dans le bilan financier. Ça a fait partie d'une cession bail. Le propriétaire la vend à un tiers et accepte de payer le loyer. Cette décision était prise avant mon arrivée.
So that decision was already made before I arrived. It's a sale leaseback.
À notre arrivée, l'argent issu de la vente sert à rembourser l'emprunt de sa construction. Seulement à la fin, nous pouvons l'utiliser. Nous payons un loyer.
We then operate it. We have to pay rent.
Et ce contrat a été inséré dans nos finances parce qu'il y avait une provision dans le contrat qui nous imposait à la fin de le rembourser. Donc cette obligation de 90 millions n'a pas été montrée sur le bilan, mais c'était une dette de 90 millions d'euros. Je l'ai remboursée. Ce n'est pas sur le bilan. Et les premiers spectacles commencent à se produire et nous avons grandement sous-estimé le coût de production d'un spectacle. Les ventes de tickets arrivent, les coûts arrivent, on dirait qu'on va être considérablement moins profitable. Et je calcule ce qu'on va obtenir du stade, je regarde ce 90 millions d'euros de dette, Je veux être le business du foot, moi. Cette salle divertit bien les gens à Lyon. Je ne l'ai pas détruite. Je l'ai vendue à la personne qui l'a créée.
Alors pourquoi avoir vendu la section féminine qui okay. fait partie
well,
de
non, let's get back. Non, restons sur l'aréna. Est-ce que j'ai détruit l'aréna? Elle divertit bien les gens à Lyon. Je ne l'ai pas détruite. Je l'ai vendue. J'ai amené de l'argent et j'ai remboursé une dette.
And I got rid of debt.
Cela prouve que le club qu'on a récupéré perdait 120 millions d'euros par an. Le club n'était pas solvable. Il perdait 120 millions d'euros par an. J'ai dû vendre des actifs pour compenser. L'aréna existe, Jean-Michel en est le propriétaire, donc je ne pense pas que j'ai détruit l'aréna. C'est un endroit magnifique.
Avec toute votre expérience, désormais, on parlera de votre avenir dans un instant, encore au-delà de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on a bien compris que votre but, c'était pas de revenir à la tête de l'OL. Quel est votre regard sur le football français que vous vouliez réformer il y a quelques mois? On se souvient des réunions un peu tendues et
un peu houleuses
et particulières avec Nasser Al Khelaifi notamment. Comment vous voyez le football français? Est-ce que vous êtes inquiet pour le football français avec toutes les problématiques financières, notamment l'absence de droits télé pour les prochaines années?
Oui, évidemment que cela m'inquiète. Je suis toujours actionnaire majoritaire de ce club. La télévision est vraiment le plus gros problème. Je n'aimais déjà pas l'ancien accord des droits télé. Je trouvais que le niveau des revenus n'était pas suffisant. Je pense que le football français est séduisant. Il est attractif pour le monde entier. Nous avons la meilleure équipe du monde, le PSG, qui impressionne tout le monde. Pourquoi nos revenus télévisés internationaux sont-ils si faibles? Pourquoi n'avons-nous pas d'accord national qui intéresse vraiment quelqu'un? Je suis le seul propriétaire arrivé dans le football français dont la fortune a été bâtie grâce au streaming de matchs de football à la télévision. C'est exactement ce que faisait mon entreprise, Fubo. Ça ressemble beaucoup au football, non? Pourquoi je n'ai pas pu avoir davantage d'influence ou jouer un rôle plus important dans la discussion sur ce que devrait être la prochaine plateforme? Ça, c'est à la Ligue d'en décider. Quand ils ont finalement fait venir quelqu'un pour prendre ce sujet vraiment au sérieux, c'était clairement un homme de la télé traditionnelle. Moi, je pense qu'on aurait dû aller à fond sur une plateforme globale, maximiser l'audience, la distribution de nos contenus dans le monde entier, que les gens payent via des micro-abonnements ou par la publicité. Les millions et les millions de personnes que l'on peut toucher via les nouvelles plateformes vont largement dépasser les revenus que l'on obtiendra avec la diffusion télé traditionnelle. Le problème, encore une fois, désolé les gars, c'est que je suis un réformateur américain, je suis un perturbateur. On ne débarque pas en France en disant aux gens ce qu'ils doivent faire en s'attendant à être bien accueillis. Moi, je ferais la télévision autrement, je n'aurais pas de DNCG. J'aurais un prix de vente, des règles comptables claires et simples. Pourquoi avons-nous un groupe de bénévoles qui examine le modèle économique et décide? Donc voilà, ce n'est simplement pas fait pour moi. La France, en revanche, c'est pour moi, je l'aime. Je viens souvent à Paris, Lyon, j'adore Lyon. J'aimerais y retourner quand ce sera un peu plus sûr, d'accord?
John, l'année se termine avec la Coupe du Monde aux États-Unis. On peut pas vous laisser partir sans parler de la Coupe du Monde aux États-Unis pour vous, l'Américain que vous êtes. Est-ce que vous sentez une excitation particulière avec cette Coupe du Monde? Est-ce que vous-même, vous êtes excité de voir cette Coupe du Monde sur le, aux États-Unis?
Look, I watch football. Like people get...
Je regarde du football, les gens me voient apparaître à un match de Charlton Athletic et ils se demandent ce que je fais là. Si je suis dans une ville et qu'il y a du foot, j'y vais. Que ce soit des U15 ou une équipe professionnelle, ça m'est égal. Donc je suis très enthousiaste à l'idée que ça arrive. Je suis vraiment déçu par le public américain lors de la Coupe du Monde des clubs. Moi j'ai trouvé que c'était l'un des événements les plus spectaculaires. À certains égards, c'était même plus intéressant pour moi. Il y a évidemment la fierté nationale de la Coupe du Monde, qui est immense et chargé d'histoire, mais la Coupe du Monde des clubs, elle permet de voir des équipes qui s'entraînent ensemble toute l'année. On peut comparer le niveau d'un pays et d'un championnat face à un autre pays et un autre championnat. Et c'est assez remarquable, surtout pour moi, en tant que fan du talent sud-américain, de voir à quel point les équipes brésiliennes ont été performantes. Sur certains aspects, c'était un événement plus intéressant et le public américain avait à peine la motivation de se lever pour aller voir un match du PSG. J'adorerais voir la Coupe du Monde des clubs organisée tous les deux ans. Je pense que les gens finiront par comprendre. Je ne suis pas sûr que les États-Unis comprennent vraiment. Je ne sais pas ce qui va se passer pour la vraie Coupe du Monde. Je pense que les stades seront pleins, mais grâce aux étrangers. Donald Trump fait beaucoup de bruit autour de la FIFA, mais je ne pense pas qu'il remplira les tribunes.
I don't think he's going to fill the seats.
Vous, John, l'homme d'affaires américain, qu'est-ce que vous pensez de l'innovation mise en place par la FIFA? Officiellement, des pauses hydratation lors de chaque mi-temps. Officieusement, l'envie de vendre de la publicité en pleine rencontre. Donc, une pub en première mi-temps, une autre en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est formidable d'un point de vue marketing ou est-ce que c'est dommage pour le consommateur?
I don't know. I honestly don't know how they're going to be doing it.
Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont gérer la diffusion. Est-ce qu'ils vont faire du picture-in-picture avec des publicités? Ils ne feront pas de coupure, mais je ne sais pas. Écoutez, je pense que le numérique permet de faire énormément de choses avec les insertions digitales. On peut avoir des bannières et tout un habillage qui apparaissent différemment à la télévision de ce qu'ils sont réellement dans le stade, ce qui permet de personnaliser le contenu et la publicité pour les spectateurs du monde entier. Je pense que ces solutions peuvent augmenter de manière spectaculaire les revenus sans nuire à l'expérience de visionnage. La caméra peut rester simplement focalisée sur le football. Si vous décidez d'aller vers des coupures publicitaires, par exemple au Brésil, ils utilisent un écran partagé. C'est la même publicité à chaque fois. J'aimerais d'ailleurs qu'ils trouvent plus d'annonceurs. Mais au moins, pendant quelques secondes, j'ai encore la moitié de l'écran qui montre le match. Je ne sais pas exactement comment ils vont faire. Ils doivent impérativement injecter davantage de revenus dans le football parce qu'on ne génère clairement pas assez aujourd'hui pour que l'ensemble des clubs dans le monde soit économiquement viable.
La crainte qu'on a en Europe et ici en France plus particulièrement, c'est de voir un président américain, Donald Trump, beaucoup trop interventionniste, le voir partout sur cette Coupe du Monde, prendre des décisions à la place de la FIFA et de Gianni Infantino. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver de voir Donald Trump comme ça intervenir sur n'importe quel sujet qui concernera la Coupe du Monde?
Je ne fais pas particulièrement attention à Donald Trump. Je vis dans un très petit immeuble dans le comté de Palm Beach et ses deux fils, Donald Jr. et Eric Trump, viennent d'emménager dans mon immeuble. Il y a des véhicules des services secrets qui bloquent ma place de parking, celle avec le petit logo de Eagle Football, et malgré ça, ils se garent quand même dessus. Donc mon problème avec Donald Trump, ce sont surtout ses enfants et le fait qu'ils prennent mes places de parking. Je vois toute la couverture médiatique autour de cette soi-disant bromance qu'il entretient avec Infantino. J'aime bien Infantino, je l'ai rencontré, mais ce qui se passe exactement entre Trump et lui, je n'en sais rien. Ça ressemble surtout à un coup de communication. Toi, tu sais sûrement bien mieux que moi ce qu'il y a réellement derrière. Moi, je ne sais pas, je m'inquiète juste pour mes places de parking.
John, merci beaucoup. En tout cas, c'était très sympa. Et vous n'avez pas voulu répondre à la question de Benoît, à savoir si vous étiez encore le boss de l'Olympique Lyonnais. Nous, on a compris, vous êtes encore le boss de l'Olympique Lyonnais. Merci, John.
No, I'm not the boss.
Non, je ne suis pas le boss. Je ne prends absolument aucune décision en ce moment, à part, par exemple, décider d'allumer ou non ma télé.
Je
suis fier d'être le propriétaire et je souhaite le meilleur à Michel.
Merci,
John Textor.
Merci beaucoup.
Merci. Yeah, bye.